Voilà, on est au cœur même de ce rassemblement. Et bien sûr, nous voudrions encore ouvrir la parole de Dieu, encore et encore. Vous savez que cette parole sera éternelle. Ne croyez pas, eh bien, qu'elle sera, elle se volatilisera, je ne sais où, eh bien, dans l'éternité. Pas du tout. Cette parole, elle est éternelle. L'homme passera, la terre passera, mais ma parole demeurera d'éternité en éternité. J'ai vraiment à cœur de vous laisser ce matin une pensée, une parole que, j'en suis convaincu, le Saint-Esprit a placée sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Je dis chacun d'entre nous parce que ça me concerne également. Cette parole, elle est revenue en redondance plusieurs fois sur plusieurs jours. Et cette parole, c'est un frère que nous retrouverons dans le ciel qui l'a exprimé un jour. Et pour ce faire, je vous encourage à prendre avec moi l'évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et juste le verset 30. Juste un verset ce matin en introduction, Jean chapitre 3 et le verset 30. Je vous laisse le temps de le chercher. Nous lisons ensemble. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, j'ai regardé pour vous plusieurs autres versions. Par exemple, la version Parole vivante exprime ce verset que nous venons de lire de la manière suivante. Il doit, en parlant, vous l'avez compris, du Seigneur Jésus-Christ, il doit devenir de plus en plus grand. Moi, de plus en plus petit. La version Bible français courant exprime également ce verset de la manière suivante. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Parole de vie dit également, lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi, de moins en moins. Voici donc les paroles de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était ni plus ni moins le cousin du Seigneur Jésus. Ce jour-là, Jean-Baptiste a vraiment prononcé, c'est le cas de le dire, une parole prophétique. Il avait compris qu'il devait sortir un petit peu de la scène de ce monde et petit à petit s'écarter. Et c'est ce qui s'est passé pour laisser place à celui qui venait du ciel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Parce que plus qu'un cousin, c'était Jésus le Fils de Dieu qui s'est incarné dans une chair comme la nôtre, qui venait à lui. Et c'est alors qu'il a exprimé cette parole. Il faut, parlant de Jésus, qu'il croisse. Et que moi, personnellement, je diminue. Et on le comprend dans l'histoire. Par la suite, Jean-Baptiste a été emprisonné. Et vous savez comment il a terminé. Mais Jésus, de plus en plus, rayonnait. Parce que la parole venait se faire chair. La parole venait prendre une chair comme la nôtre et marcher parmi les hommes. Jésus lui-même, Dieu lui-même, est venu marcher parmi les hommes. Cette parole que Jean-Baptiste a prononcée en son temps, je le dis avec une grande conviction, est plus que jamais d'actualité pour nous chrétiens des derniers temps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut, concernant Jésus, qu'il croisse et que je diminue. Cette parole est un principe spirituel que nous devons tous appliquer dans notre vie personnelle si nous voulons, à notre tour, grandir et progresser avec le Seigneur. Cette parole est vraiment la solution à bien, écoutez-moi bien, à bien des échecs et des désillusions que nous avons eues tous dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Cette parole est vraiment la réponse qui nous permettra de voir des domaines de nos vies être littéralement changés, mais changés en bien. Cette parole, il faut qu'il croisse et que je diminue, et ni plus ni moins un secret, une clé qui va nous permettre de vivre une véritable vie chrétienne victorieuse. Parce que le chrétien est appelé non seulement à recevoir le salut, mais à marcher de victoire en victoire jusqu'au retour du Seigneur. Qu'on ait un tant soit peu la tête baissée, c'est une chose. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous à la même école. Mais Dieu, ce matin, nous dit, relève la tête, mon fils, ma fille. Il faut, toutefois, que je croisse dans ta vie et que toi, de plus en plus, tu puisses t'effacer, tu puisses diminuer. J'aimerais donc aujourd'hui vous partager quatre domaines, quatre points, on va dire, dans notre vie chrétienne où il faut impérativement que Christ puisse croître en nous. Et impérativement, parce que là, c'est les vases communicants, parallèlement, nous puissions diminuer. Est-ce que vous voulez connaître ces quatre domaines ou ces quatre points? Quelqu'un dit bien sûr. Premièrement, il faut que le caractère de Jésus-Christ croisse en nous et qu'en retour, notre propre caractère diminue. Mais comment le caractère de Christ pourra-t-il croître en nous si ce n'est en faisant, excusez-moi l'expression, parce que c'est la réalité, c'est ce que dit la Bible, en faisant mourir notre vieille nature, le vieil homme qui, eh bien, toutes les fois que nous lui en donnons l'occasion, essaye, eh bien, de reprendre la main sur notre vie, sur notre volonté. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et c'est justement ce que rappelle l'apôtre Paul. Il y a des versets, oh, ils ne sont pas très célèbres, hein, ils ne sont pas très populaires, eh bien, mais pourtant, il faut les lire. Galates chapitre 2 et le verset 20. Qui connaît par cœur ce verset? J'ai été crucifié avec Christ. Là, j'aurais aimé entendre amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais la réalité, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et mieux encore, qui s'est livré lui-même pour moi. Frères et sœurs, tant que notre vieille nature n'est pas pleinement crucifiée avec Christ, tant que nous ne la maintenons pas, eh bien, dans cette mort spirituelle, alors les gens ne pourront pas voir le caractère de Jésus-Christ se manifester à travers nous. Or, vous le savez, la mission de l'Église en général, mais la mission de chacun d'entre nous en particulier, c'est de pouvoir, eh bien, montrer à la face de ce monde les vertus, la gloire, le caractère de Christ. Il faut que la nature de Christ soit manifeste au travers de nous. Par nos vies, par nos faits, gestes, il faut qu'on arrive à nous reconnaître. Si à l'époque, eh bien, d'une manière ironique, parce que c'est ça au départ, on a appelé, eh bien, pour la première fois les disciples de Jésus chrétiens, c'était à Antioche. Mais les gens qui les observaient disaient, mais ils font comme le Christ, ce sont des chrétiens, et ils rigolaient. Mais néanmoins, ils voyaient la personne de Jésus au travers de leurs paroles. Il y a un langage qui vient du ciel. Il y a un regard qui vient du ciel. Il y a une joie qui vient du ciel. Il y a une paix qui vient du ciel. Si on est chrétien, frères et sœurs, honnêtement, ce n'est pas la peine de le dire, les gens du monde le reconnaissent. Parfaitement. Parce qu'ils sont des ténèbres. Et ils savent reconnaître dans les ténèbres ce qui peut être la lumière, ce qui pourrait les différencier. S'ils commencent à vous dire, vous êtes comme, mais toi, tu n'es pas meilleur que moi, t'es pas... il faut s'inquiéter. On est là pour montrer la différence. On est là pour briller non pas de notre lumière, mais de celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Une remarque que je voudrais vous faire, vous savez, on est eh bien, à l'approche des fêtes de fin d'année, la fête de Noël. Et on s'applique à pouvoir eh bien, se replonger dans toute l'histoire de la venue, de la naissance du Seigneur Jésus. Et vous savez qu'il y a quelques mages, on ne sait pas le nombre, et encore moins leur prénom. Mais ils sont venus de loin, ils sont venus de l'Orient. Et ils ont fait, dit les commentateurs, des milliers de kilomètres pour venir déposer au pied du Seigneur de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont venus après les bergers. Ils ne sont pas venus en même temps que les bergers. Ils sont venus après. Les bergers sont arrivés quand Jésus était encore dans la crèche. Mais Jésus n'est pas resté dans la crèche. Il était encore à Bethléem et il a trouvé une maison. Et c'est dans cette maison, eh bien, à Bethléem, que les mages sont entrés. Et je voudrais attirer votre attention sur un passage que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cité ici en ces lieux, Matthieu chapitre 2, verset 11. Parlant des mages, il nous est dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il n'est pas beau ce passage. Ils entrèrent dans la maison et virent qui ? Le petit enfant. Ils virent d'abord le petit enfant. Excusez-moi, ils ne virent pas eh bien, les choses secondaires. Ils virent Marie après. Et on ne parle même pas de Joseph. Et encore moins eh bien, de peut-être toutes les autres personnes qui pouvaient être dans cette maison. Non, ils virent d'abord le petit enfant. Et pour nous, il y a un enseignement ce matin. Quand les gens viennent ici, dans cette maison, la première chose qu'ils doivent voir, c'est Jésus. Jésus parmi nous. Jésus qui règne parmi nous. Jésus qui communique cet amour et qui nous donne à nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas que des chansons, frères et sœurs. Mais plus que cela, c'est une réalité à vivre. Parce qu'un jour, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur fera lui-même la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et pour appartenir au Seigneur, si je n'ai pas l'amour, frères et sœurs, soyons honnêtes, je suis votre pasteur, je suis obligé de vous dire qu'on a besoin de revenir au Seigneur dont on s'est profondément éloigné. Parce que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. On a parlé de flamme premier amour. Plaise à Dieu que cette flamme soit bouillante au-dedans de nous, et nous, donner, nous afin de nous donner d'être passionnés pour le Seigneur Jésus. Quand les gens rentrent dans cette église, il faut, dès le premier coup d'œil, qu'ils voient Jésus. Quand ils rentrent chez vous, dans vos propres maisons respectives, il faut également qu'ils voient Jésus. La sérénité, la paix. Que l'homme puisse aimer sa femme et que la femme puisse respecter son mari. Et que, eh bien, ensemble, ils puissent eh bien, apporter la bonne éducation, l'éducation chrétienne à leurs enfants. Aujourd'hui, pour éduquer les enfants, il faut presque marcher à contre-courant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut avoir ce courage pour pouvoir préserver nos enfants de tout ce courant. Cette mauvaise influence, c'est ce qu'a fait cette femme, eh bien, la mère de Moïse. Elle a voulu épargner son enfant et par sa foi, eh bien, Dieu a honoré sa foi et a levé plus tard son fils. Il faut que quand les gens nous voient vivre, quand ils nous voient parler, quand ils nous voient agir et même réagir, parce que la vie finalement c'est une succession de réactions. Un jour c'est nous qui blessons, demain c'est l'autre qui nous blesse, mais Dieu nous attend par rapport à nos réactions. Il nous regarde et il voit comment nous réagissons. Mais il faut que les gens qui nous entourent, il faut que même les autres chrétiens puissent voir, eh bien, au travers de nous, au travers de nos paroles, de nos actions et nos réactions, il faut qu'ils voient Jésus. Alors il est bon pendant ces moments, pendant le culte, de pouvoir faire cette introspection intérieure, un peu comme le fils prodigue, rentrer en nous-mêmes et peut-être nous poser la question ce matin. Qu'est-ce qui prédomine dans ma vie? Est-ce que c'est ma vieille nature? Est-ce que c'est mon caractère? Pour l'avoir entendu, eh bien, quelquefois, lors d'entretiens, « Ah, mais moi, je suis comme ça, hein. Et puis c'est de souche. C'est héréditaire. Ah, moi, je démarre au quart de tour. » Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est le caractère de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, si tu mets en évidence ton caractère, c'est certainement peut-être parce que Jésus est en retrait. Laisse-le grandir au-dedans de toi. Laisse-le grandir de par son caractère. Et toi, eh bien, ce caractère, cette vieille nature, maintiens-la crucifiée jour après jour. C'est un travail continuel. Ça s'appelle la sanctification. Ça s'appelle aussi la consécration. Se placer sur l'autel. D'ailleurs, il dira dans Romains chapitre 12, l'offrande qui lui sera acceptable, agréable, raisonnable, c'est lorsqu'on vient offrir nos vies. Ça ne peut pas être moins. C'est pour ça que le matin, eh bien, je m'applique en tout point, eh bien, à pouvoir venir dans la maison de Dieu de tout mon cœur, chanter. Je vous l'ai déjà dit, un jour j'ai vu un vieux pasteur, il m'a marqué, il était âgé, on voyait même, excusez-moi, son expression, son dentier, peu cher. Mais de tout son cœur, il ouvrait la bouche et louait le Seigneur. Et ça m'a marqué à vie. Quand vous chantez, faites pas semblant, chantez de tout votre cœur. Que les lieux explosent de notre reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Voilà le premier point. Un deuxième point, très rapidement, un deuxième domaine où eh bien, nous avons besoin de voir Christ croître et nous diminuer. Il faut que l'humilité de Christ grandisse en nous et que notre orgueil diminue, même soit exterminé de nos vies. Frères et sœurs, s'il y a bien un mal qui ronge, excusez-moi l'expression, qui ronge comme la gangrène. S'il y a bien un fléau qui ruine les œuvres, les cœurs, les vies, les familles tout entières, c'est bel et bien l'orgueil. Regardez, tournez, regardez comme vous voulez, l'orgueil souvent est la source et même la force eh bien, qui va alimenter toute forme de conflit et de querelle. La Bible nous révèle d'ailleurs que c'est à cause de l'orgueil que cet ange céleste, Lucifer, puisqu'il s'appelait ainsi avant, eh bien, est tombé, a été déchu de la présence de Dieu. Un verset, peut-être que certains ne connaissent pas, mais que j'aimerais replacer devant vos yeux. Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 17, ne le cherchez pas, je pense que vous l'aurez sous l'écran, super. Il nous est dit concernant eh bien, cet ange de lumière qui était aussi un être céleste. Vous savez, dans la race des anges, il y a d'abord les anges, les archanges, et puis il y a aussi les chérubins. Et ce Lucifer était un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur, voilà où le bât blesse, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. C'est violent, ça. Vous savez, on peut cacher aux hommes, mais il n'y a que Dieu qui voit, qui sonde les cœurs. Et dès qu'il voit une élévation, dès qu'il voit de l'arrogance ou de l'orgueil dans le cœur, paf, il intervient. Parce qu'à lui revient toute la gloire, on y reviendra tout à l'heure. L'orgueil a été ce qui a perdu à jamais Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière, qui est devenu par la suite le diable. Diable veut dire calomniateur. Et ce diable est devenu cet être abject, immonde, et qui encore fait du mal à l'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, n'oublions jamais ce que dit la Bible concernant l'arrogance et l'orgueil. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. De la même manière qu'il y a des lois spirituelles, les lois physiques, il y a aussi des lois spirituelles. Et là, ce sont deux lois spirituelles. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est immanquable, c'est incontournable. On peut raisonner, on peut faire tout ce qu'on veut. L'orgueil précédera toujours la chute. Mais à l'inverse, c'est quelques chapitres plus bas, Proverbe chapitre 18 et le verset 12, surtout la deuxième partie de ce verset, on lit tout le verset. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais, allons le dire ensemble, l'humilité précède la gloire. Vous savez ce que fait l'humilité quand nous l'avons, quand nous la recherchons, quand nous la poursuivons? Elle nous aide à prendre conscience de notre petitesse, prendre conscience de notre faiblesse, mais aussi de nos limites. Et c'est quelque part, pour revenir à Jean-Baptiste, c'est parce que Jean-Baptiste était conscient de sa petitesse et de ses limites qu'il a pu dire ce que nous avons lu en introduction. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a même rajouté au verset suivant, le verset 31, il va dire devant ses disciples, devant ses foules, il attirait des foules jusque dans les déserts. Il avait une onction particulière. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui et on y reviendra tout à l'heure. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle de lui. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il fait comprendre à qui veut bien entendre que Jésus, c'est pas n'importe qui. Et qu'il a besoin, lui, de diminuer afin, alléluia, de lui passer le relais. Quel honneur! C'est certain, Jean-Baptiste était un homme très humble. En parlant de Jésus, il dira autre part à ses disciples, « Il vient après moi, celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de dénouer les lacets de ses souliers. » L'humilité, vraiment, c'est ce qui va nous protéger, mes amis, de toute forme d'orgueil. Et pour marcher avec le Seigneur, il faut marcher de manière humble. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Mais il termine en disant que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité, c'est ce qui va nous donner à trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, il a dit autre part, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Plaise à Dieu que nous soyons toujours au bénéfice de la grâce de Dieu. Plaise à Dieu que ce matin, nous puissions abondamment venir dans la simplicité de nos cœurs, humblement devant lui, afin d'hériter toutes ses bontés, toutes ses grâces, ses bénédictions. Regardez ce qu'il est dit autre part, Proverbe chapitre 22, verset 4. J'espère que quelqu'un prend des notes pour relire ces passages. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, mais aussi le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La richesse, la gloire et la vie. En tout cas, il faut qu'on puisse se rappeler... Dans un deuxième point, c'est que l'orgueil, sous toutes ses formes, empêchera toujours, écoutez-moi bien, empêchera toujours la vie de Jésus-Christ de se déployer, de croître, de germer, de grandir au travers de nous. C'est un point bloquant. C'est un moment, c'est l'orgueil, c'est ce qui nous met sous la touche. C'est ce qui nous met à l'écart, qui nous fait même sortir du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. On arrête avec ce deuxième point, on en arrive avec un troisième qui, pour moi, à mon sens, est tout aussi important que les deux premiers. Il faut que sa volonté, parlant bien sûr de la volonté de Dieu, mais la volonté de Jésus-Christ. Il faut que sa volonté croisse en nous et que notre propre volonté diminue. Vous savez, lorsqu'on appartient à Jésus, c'est parce qu'un jour on a dit « Seigneur, je te donne mon cœur ». J'étais esclave, on a été acheté par le péché, on est devenu esclave du diable, du plus grand des tyrans. Mais Jésus, par son sang, nous a rachetés, c'est pour ça qu'on l'appelle le Rédempteur. Et à partir de ce moment-là, nous sommes devenus plus que jamais sa propriété. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et lorsque donc nous appartenons à Jésus-Christ, nous devons apprendre à soumettre notre volonté à celle de Dieu. Et trop souvent, je le dis, parce que je le vois, que ce soit au travers d'entretiens, au travers des discussions que je peux avoir, trop souvent, nous chrétiens, on connaît la volonté de Dieu. Quelquefois, on essaie de se tromper à soi-même. Mais parce qu'on a l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, nous l'avons déjà. Le problème, il est que lorsque, eh bien justement, on connaît cette volonté, qu'est-ce que nous, nous en faisons? Qu'est-ce que je fais de la volonté? Tu connais la volonté de Dieu. Tu sais ce qu'il attend de toi. Et tu persistes dans ta voie. C'est, n'est-ce pas ce qu'on a entendu au travers d'un don spirituel qui a été apporté avec l'âme, le cœur de Dieu saigne parce qu'il voit en avance ce qui sera notre partage. Parce que c'est clair, ce qu'on sème, on le récoltera. La vie, c'est une succession de choix. Et suivant mes choix, eh bien, je récolterai en fonction de ce que j'ai choisi. Mais Dieu qui nous aime nous avertit toujours et nous montre un code de vie, une façon de marcher. Mon fils, ma fille, oh, si tu écoutais, si tu es attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme les flots de la mer. Ton bonheur, alléluia, également, comme les flots de la mer. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire. Il y a des épreuves et des difficultés qui perdurent encore aujourd'hui dans certaines vies, juste parce que nous n'avons pas voulu nous soumettre à la volonté de Dieu lorsque ce dernier nous l'a fait connaître. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je répète, j'ai été trop vite. Il y a des épreuves, et n'allez pas me dire que ces épreuves viennent de Dieu, il y a des épreuves et des difficultés qui perdurent encore aujourd'hui dans nos vies, juste parce que nous n'avons pas voulu nous soumettre à la volonté de Dieu lorsque ce dernier nous l'a fait connaître. Et Jean le Baptiste était, pour revenir à lui, puisque c'est lui qui a donné cette parole, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. À un moment donné, quand Jésus, rappelez-vous, est venu vers lui pour se faire baptiser, Jean Baptiste avait une conviction dans son cœur. Vous savez laquelle? Celle de refuser, eh bien, que ce soit lui qui baptise le Seigneur, mais au contraire, que Jésus puisse le baptiser. Pour lui, c'était un non-sens. Pour lui, il était convaincu, et je l'avais déjà partagé une fois lors d'un partage. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais au départ, il a refusé la volonté du Seigneur Jésus de se faire baptiser eh bien, par lui. Mais Jean ne résista plus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 3 et le verset 15, regardez ce qu'il est dit. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Vous entendez la douceur avec laquelle le Seigneur a parlé à Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. S'il écrit « Jean ne lui résista plus », c'est parce qu'il a eu un temps de résistance à la volonté de Dieu. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Et quand il nous est dit « Jean ne lui résista plus », donc quelque part il a baptisé le Seigneur Jésus, la Bible et le texte ne nous dit pas eh bien, qu'il était pleinement convaincu eh bien, de ce que Jésus venait de lui dire. Mais il l'a fait, juste par amour pour Dieu. Il l'a fait parce qu'il avait choisi de soumettre sa volonté à celle de Dieu. Jésus lui-même eh bien, a été celui qui s'est soumis à la volonté du Père. S'il y a un passage qui le confirme, c'est Luc chapitre 22 au verset 42, il est là agenouillé et il choisit avec lui toujours les mêmes, les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il l'observe au travers de cette prière qu'ils ont su nous rapporter, merci Seigneur. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, il a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit, et c'est étonnant, il nous est dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Avait-il besoin d'apprendre l'obéissance? Jésus, en tant que fils d'homme, fils de l'homme, eh bien, lui aussi a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et quelle souffrance, frères et sœurs. Regardez tout le chemin qu'il a accompli, tout le parcours, le chemin de souffrance que Jésus a emprunté juste parce qu'il avait fait le choix d'accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, je l'observe aujourd'hui, parce que je le dis, aujourd'hui c'est une chrétienté à la carte. On vient quand on veut, etc. Et puis attention, et c'est un peu à l'image donc de ce monde. On veut tout très rapidement et surtout sans souffrance. Et voyez-vous, quelques personnes, certains désirent faire la volonté de Dieu à condition que ce soit sans effort, sans sacrifice et sans douleur. Est-ce que je me trompe, frères et sœurs? Et là, c'est là qu'on se fourvoie. Quand on veut vraiment se soumettre à la volonté de Dieu, il y a des temps de souffrance, il y a des temps d'incompréhension. On ne comprend pas tout. Mais Seigneur, je te fais pleinement confiance, parce que ta parole, c'est la vie. Et si je la suis, alléluia, à la lettre, eh bien je serai heureux, j'aurai la richesse, la gloire. Que choisis-tu ce matin, mon frère, ma sœur? Faire ta volonté ou celle de Dieu? C'est là la chose. Pourtant, le Seigneur, il nous a déjà avertis, hein. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ah, on connaît ce chant, ce verset. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul, ou celle-là seule, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Même il y a un bonhomme, au travers d'une parabole que Jésus a citée, qui a pu s'infiltrer dans la salle des fêtes. Mais le roi, qui passant bien par là, entrant dans la salle et observe ses convives, remarque cette personne qui avait bien refusé de mettre le manteau nécessaire pour honorer le roi qui les avait invités. Vous connaissez cette parabole, la parabole des convives. Et le roi, je fais un lapsus, Jésus, qui lui dit « Mais mon ami, comment es-tu entré sans avoir revêtu le vêtement de fête ?» C'était la volonté de Dieu de pouvoir demander à ses serviteurs d'inviter un maximum de personnes. Mais la condition pour entrer dans le festin, dans la salle des fêtes, c'était de revêtir, c'était la moindre des choses, de revêtir un vêtement. Mais il a voulu s'en affranchir. Il a voulu faire sa volonté. Ça peut passer devant les hommes. Ça ne passera jamais aux yeux de Dieu. Pour ça, et on avait déjà partagé ce passage où il nous est dit, Jésus lui-même qui dit « Laissez, poussez, livrez et le blé ». Mais à un moment donné, le Seigneur, il va démarquer toutes ces choses. On a besoin d'entendre ces choses pour pouvoir nous préparer à la rencontre du Seigneur. Et nous l'avons entendu au travers d'un don spirituel. Il revient bientôt, il est à la porte. Et on a intérêt à pouvoir apprendre à nous soumettre de plus en plus, de mieux en mieux, à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en ai bientôt terminé. Quatrième, dernier point, non pas que la liste est exhaustive, vous l'avez compris, mais j'en ai juste choisi quatre pour nous ce matin. Il faut que sa gloire croisse en nous et que tout désir de gloire personnelle diminue en nous. Jean-Baptiste était considéré par la foule comme un homme de Dieu véritablement, un grand prophète de Dieu. Mais voyez-vous, jamais il a essayé d'en tirer une quelconque gloire. Mais dans le cœur de l'homme, c'est une manie. Insidieusement, quelquefois subtilement, on fait les choses pour, en retour, en tirer une quelconque gloire. Mais Jean le Baptiste, lui, avait pour seul but de glorifier Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est à Dieu que revient toute la gloire. Vous êtes d'accord avec moi ? Frères et sœurs, tout ce que nous pouvons avoir, toutes nos capacités, nos qualités, tout ce que vous pouvez mettre en évidence, tout ce que vous pouvez mettre à disposition du Seigneur, c'est Dieu qui nous l'a accordé. Que ce soit les chrétiens ou les incroyants, tout le monde a reçu des choses. Je vais vous ouvrir mon cœur. Quelquefois, quand j'entends des belles voix qui s'élèvent, que ce soit à la télé, des célébrités, quelquefois j'en ai des larmes aux yeux. Et je dis, mais quel gaspillage. Dieu leur a confié un don, un talent, et il l'utilise pour le diable. Parce que lui aussi veut une certaine gloire, une certaine adoration de notre part. Mais toute la gloire, toute l'adoration, notre adoration, elle revient à notre Dieu qui a créé toutes choses et qui nous a donné tout ce dont nous pouvons avoir. Jésus nous invite à pouvoir reconnaître ces choses, à pouvoir même les déclarer, même quand il nous invite à prier. Les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors Jésus a dit, mais quand vous priez, dites notre Père. Premièrement, réalisez que vous n'avez plus affaire au Dieu créateur, mais Dieu qui est devenu votre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis on arrive à la fin de la prière, Matthieu chapitre 6 et le verset 13, regardez. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et Jésus continue à enseigner ses disciples. Lorsque vous terminez, dites, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, et même au 21e siècle, le règne, la puissance et la gloire. Toute la gloire, frères et sœurs, doit revenir pleinement à Dieu. Jésus nous rappelle aussi que nous devons manifester les œuvres, tout ce que nous pouvons faire dans le royaume des cieux. C'est uniquement pour que les gens en retour puissent se tourner vers le Seigneur et glorifier Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16 le confirme. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, sous-entendu la lumière de Christ, la lumière que nous apporte le Saint-Esprit, le chandelier, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils vous glorifient. Ah, on n'a pas là, voilà. Ça, je lisais les apocryphes là. Là, voilà. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire tout ce que nous devons faire, tout ce que nous sommes amenés à faire, que ce soit dans la maison de Dieu ou à l'extérieur de la maison de Dieu, il faut que ça a pour finalité que le Seigneur soit glorifié. Si la gloire revient sur nous-mêmes, il y a un problème. Il y a un détournement. Détournement de fond. Parce que toute la gloire revient à notre Père céleste. Lorsqu'on veille à glorifier Jésus dans tout ce que l'on fait, écoutez bien, c'est Jésus lui-même qui ne manquera pas de nous glorifier en retour. Et on le voit bien, Jésus n'a pas manqué de pouvoir louer notre ami Jean-Baptiste. Après tout, la Bible dit qu'un autre te loue. Mais quand c'est Jésus qui parle de nous, et surtout en bien, il a parlé de Jésus en le présentant comme le plus grand des prophètes. Grand, il est le plus grand des prophètes à cause de sa mission. Jean-Baptiste est comme le trait d'union entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il est celui qui va introduire, celui qui va changer le cours de toute l'histoire de l'humanité. Il est le précurseur de Jésus. Et c'est ce que Jésus voulait mettre en évidence. C'est pour ça qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Jésus va même dire autre part que spirituellement parlant, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait revenir. Le dernier prophète, Malachie, a écrit bien que avant la venue du Seigneur Jésus, c'était une prophétie messianique, Élie allait revenir. Et comprenez, Élie n'est pas revenu sous l'incarnation de la personne de Jean-Baptiste. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'esprit d'Élie, l'autorité qu'avait Élie, on la retrouve bien dans la vie de Jean-Baptiste. Il était littéralement, spirituellement parlant, Élie qui avait été annoncé. Voyez toutes les éloges que Jésus a apportés à cet homme, qui était simple sur lui-même. Il n'avait pas de cravate, hein. Il n'avait pas de chapeau. Il avait juste un manteau de poils de chameau. Il avait une ceinture de cuir et il se nourrissait, tenez-vous bien, de sauterelles et de miel sauvage. Il a cherché par tous les moyens de ne pas attirer l'attention sur lui-même, mais sur Jésus. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En plus de ça, j'ai une cravate ce matin. Si je m'habille comme ça, c'est que je veux honorer le Seigneur Jésus. Et c'est dommage, c'est parce que je n'ai pas mieux que je ne mets pas mieux. Mais si je pouvais mettre mieux, je mettrais mieux. Je suis désolé. Quand on va voir les autorités de ce monde, quand on va voir, on s'habille bien. Alors ici, il y a plus que le maire, il y a plus que le président, il y a plus que quiconque de ce monde, et je veux honorer mon Seigneur. Et je ne viendrai pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Là où tout est illuminé, tout est beau, on est en train d'étudier le tabernacle. Mais s'il faudrait s'attarder sur les vêtements du souverain sacrificateur, c'était d'équerre. Et tout était beau sur la personne. Et je suis convaincu que quand le souverain sacrificateur allait quelque part, il y avait une aura, un certain respect. Nous sommes, frères et sœurs, des gens nobles. Nous faisons bien partie de la grande famille de Dieu. Nous sommes appelés à être des rois et des sacrificateurs. Je ne viens pas n'importe comment. Je referme la parenthèse. Et si on concluait, c'est sûr et certain, Nous voulons tous grandir spirituellement dans notre vie chrétienne. Nous voulons tous voir notre foi, et comme on l'a chanté tout à l'heure, notre amour croître devant Dieu et devant les hommes. Mais cela ne pourra se faire que si et seulement si Jésus grandit en nous et que nous, en retour, nous diminuons. Et on l'a vu ensemble, je le recite, ce qui doit grandir en nous et qui appartient à Jésus, c'est entre autres sa nature, son caractère. C'est aussi son humilité. Ce qui doit encore grandir et qui appartient à Christ, c'est sa volonté et sa gloire. Et parallèlement à cela, tels les vases communicants, ce qui doit diminuer en nous, c'est notre vieille nature. Le vieil homme, le vieux Joël. Notre orgueil, notre volonté propre et évidemment tout désir de gloire personnelle. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « il faut ». Dans son esprit, ce n'était pas une option. Dans son esprit, ce n'était pas « allez, éventuellement, il faut que… » Non, c'était un impératif. C'était un impératif incontournable dans sa vie et c'est pour ça qu'il s'est appliqué à le faire, il l'a bien fait. Nous aussi faisons de cette parole de Jean-Baptiste une nécessité, un impératif incontournable dans notre propre vie. Que notre prière soit « oui Seigneur, que tu grandisses davantage et que moi je m'efface et que moi je diminue ». Et croyez-moi, dans cette perspective, le Seigneur lui-même va nous aider à grandir spirituellement. C'est lui-même qui va nous permettre de croître. C'est lui-même qui va nous aider à être matures les uns et les autres. Prions ensemble le Seigneur. Amen et amen. Tu nous le dis à tous, et je le prends pour moi personnellement. Il faut que tu croisses et que personnellement je puisse diminuer. Seigneur mon Dieu, je te prie par le Saint-Esprit ce matin. Aide-nous à comprendre ces choses, mais surtout à les mettre en pratique. Seigneur, toutes les poches de résistance dans nos vies, sois vaincu ce matin par l'autorité et la puissance de ta parole. Seigneur, un mon Dieu de connivence avec l'action du Saint-Esprit, que nous soyons travaillés. Et toi, le divin potier, viens encore nous façonner, nous pétrir, Seigneur. Nous sommes encore en devenir et tu veux, Seigneur, nous ajouter telles des pierres pour former cet édifice qui est ni plus ni moins le corps et le temple du Saint-Esprit, ton Saint-Temple. Seigneur, pardonne-nous. Père éternel, quand notre caractère vient, Seigneur Père mon Dieu, entraver, Seigneur Père mon Dieu, ta personnalité, ta douce personnalité. Je te prie, Seigneur, d'enlever toute forme d'orgueil dans nos vies, afin que, Seigneur mon Dieu, ta douceur, ton humilité qui te caractérisait, puisse être mise en évidence dans nos vies. Oh Seigneur, ta grâce, afin que nous puissions soumettre notre volonté à la tienne. Et que toujours nous cherchions à te glorifier, toi. Et que toute forme de désir de propre gloire soit placée sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, permets-nous de faire des progrès. Tu es à la porte et tu reviens bientôt. Seigneur, Père, mon Dieu, il n'y aura pas de sentiment. Seigneur, Père éternel, il y aura juste la vérité. Tu es la vérité. Et tu veux, Seigneur, Père, que nous marchions dans la vérité. Fais-nous grâce, purifie-nous, sanctifie-nous encore en ce matin. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen et amen.